présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tous les jours de la semaine où Guillaume est seul dans son château avec les domestiques, l'infirmière continue à le voir tous les jours pour lui faire des piqûres de pénicilline et le masser. C'est une grande dame sèche, brune, à lunettes dans les 40 ans, elle a une blouse blanche. Guillaume la reçoit dans sa chambre.
Entrez. Bonjour monsieur.
Elle vient tous les matins à 10h. Elle lui dit, je ne viens pas trop tôt parce que je sais que les hommes de distinction se lèvent tard. Il lui dit, mais pas moi, je ne suis pas tellement de distinction. Je suis très simple. Je mets une vie cloîtrée. Elle lui dit,
vous dites ceci, mais vous habitez dans un château.
Il n'est pas à moi, elle lui dit.
Allongez-vous au lieu de dire des bêtises.
Il a gardé son pyjama et s'allonge. Elle prépare la piqûre. Il retourne la manche droite et la lui fait.
Allez maintenant, enlevez votre pyjama que je vous masse.
Il enlève son pyjama, reste en slip. Elle le masse. Surtout parti
qui a été greffé avec une pommade
assouplissante.
Elle lui soulève le slip et lui dit « Avec de si jolies fesses comme ça, tout va bien. » Puis lui remet le slip en place. Elle le masse. La peau s'assouplit bien. Un vrai bébé. Est-ce que vous avez mal ? Non, tout va bien. Tant mieux. Oh, on peut dire que vous êtes un privilégié, vous. L'ami que vous avez est l'homme d'affaires le plus puissant du monde. J'ai lu ça dans Capital Économique. Et qu'est-ce que vous faites, vous ?
Guillaume, gêné, lui dit : Moi, rien.
Oh, c'est riche. Et ça se dit pas privilégié. Qu'est-ce que sont les autres alors ?
Guillaume lui dit : Je suis pas riche, je n'ai rien.
Et vous vivez dans un château ?
Oui, mais c'est pas à moi. Comme Louis XIV, qui n'avait rien à lui, que tout était à la nation, car le roi, en étant sacré, se dépossédait de tout. Il n'avait plus rien à lui.
Elle lui dit : Bien sûr, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose en propre, puisqu'il peut disposer de tout comme bon lui semble.
Guillaume lui dit : Vous oubliez de dire avec l'assentiment de son peuple et de ses représentants.
Elle lui dit : Et vous ?
Il lui dit : Moi, c'est la même chose avec l'assentiment de mon ami.
Elle rit et lui dit : Ah, alors vous êtes comme le roi.
Oui, mais sans obligation de régner. Lorsqu'elle le masse, à certains endroits, cela le chatouille et il a envie de rire. Mais certains massages le gênent, car cela le chauffe un peu trop. Il se demande comment les masseurs peuvent exercer leur métier sans éprouver des désirs sexuels. Et si une personne leur plaît, comment font-ils ? Ce sont tout de même des êtres humains. Et celui qui est massé, comment fait-il ? Pour rester neutre, surtout si c'est un homme, avec son sexe, cela se voit de suite.
L'infirmière vient le voir deux fois par jour, une fois le matin à 10h et une autre fois le soir à 19h, pour qu'il puisse passer une nuit tranquille. Et comme cela, elle enlève les impuretés de la journée. Mais Guillaume peut se doucher autant qu'il le veut, il a un savon très doux pour cela. Une fois par mois, le médecin, c'est-à-dire Riquin, vient le voir faire une visite complète. Tout se passe bien. Après ses massages, ses soins, Guillaume passe son temps à écrire des chansons, lire, écouter de la musique et marcher un peu dans le parc. Toutes ses occupations l'empêchent de s'ennuyer, mais il a hâte de retrouver Galien. Parce que passer la semaine avec les domestiques et l'infirmière, c'est pas vraiment marrant car il n'y a pas beaucoup de discussions avec eux. Il fait toujours des rêves érotiques, mi-homme, mi-femme, et cela le force à se masturber. Et comme tous les jeunes gens orgueilleux n'aiment pas se masturber, il trouve cela dégoûtant et pas adulte, pas masculin. Il a l'impression, même qu'en le faisant, qu'il est trop hypnotisé par son sexe et qu'il risque de devenir pédé. Et cela l'énerve beaucoup et le dégoûte. Les poèmes pour ses chansons ont comme sujet la nature et ses fantasmes érotiques. La nature, c'est normal parce qu'il vit en pleine nature au milieu d'un beau parc. Malgré qu'il n'était pas très nature, il s'est mis à apprécier tous ces arbres, surtout vers la fin septembre où au milieu de feuilles vertes, il y en a qui commencent à jaunir et donnent un peu de douceur à ce vert si intense. Le lac aussi est beau, il aime s'asseoir à son bord, voir cette eau avec ses reflets d'argent, ses petites rides sur la surface. Le lac est tellement lumineux qu'il fait mal aux yeux. Il aime aussi marcher, cela lui permet de se détendre et de pouvoir mieux écrire, d'avoir l'esprit dégagé. La solitude lui pèse, surtout la nuit, enfermé dans sa chambre et durant ses repas qu'il prend seul. Là, il pense à sa mère, à Paris. La nuit, la grande ville lui manque avec ses spectacles, la foule, les lumières. Mais, vivant plusieurs mois, presque solitaire dans un parc paradisiaque, avec ses habitudes, pourra-t-il vivre à Paris ou dans une grande ville au milieu de la foule, du bruit, lui qui vivait dans le silence, au milieu des contrastes de la trace de la société, lui qui vivait comme il voudrait. Et le temps passe, la vie, les gens changent, il ne trouvera peut-être pas les choses pareilles, et a peut-être sublimé les choses lorsqu'il va les retrouver, ne les reverra plus pareil. Beaucoup de déceptions dans tout ça. Lorsqu'on est dans un paradis, on ne sait pas que l'on y est. On le sait que lorsqu'on n'est plus dans ce paradis. Sinon, compare pas. On ne peut pas savoir. Pour connaître son bonheur, son amour, il faut comparer. Et des fois, on s'aperçoit que ce que l'on a perdu était le bonheur. Et lorsque l'on avait, on ne le voyait pas. Parce qu'on vivait ce bonheur. Et qu'on ne pouvait pas comparer. Et des fois, lorsque l'on peut pas comparer, il est trop tard. Le bonheur a disparu. Ceci dit, je ne dis pas que Guillaume soit heureux, je dis plutôt qu'il est dans un entracte heureux, mais qu'en dehors de cet entracte, il se peut qu'il ne trouve pas le bonheur. Sa chambre à écrire, on frappe à sa porte. Entrez. Entre le domestique. Monsieur, il y a une dame qui désire vous parler. Qui est cette dame? Le domestique lui dit, ma foi, cette dame est d'un certain âge. Oui, mais son nom. Elle dit que son nom ne vous dira rien. Elle se dit appeler Madame Morel. Guillaume lui dit,
Je ne vois pas. Et vous?
Un nom très commun.
Et que veut cette personne?
Elle m'a dit seulement qu'elle aimerait avoir un entretien avec vous.
Guillaume hausse ses épaules. Bon, je vais au salon. Vous me l'amènerez. Salon du rez-de-chaussée.
Bien, monsieur.
Et le domestique sort. Calais soupire, se lève, met sa veste, qui était au-dessus de la chaise, et sort de la chambre. Longe un couloir. Descend les escaliers. Et ouvre la porte du salon. Elle est debout. Elle a tourné la tête en entendant le bruit de la porte. C'est une femme grande, mince, cheveux blonds à chignons, habillée d'une robe noire et d'un sac à main noir aussi. Elle doit avoir dans les 75 ans. Guillaume va vers elle.
Et lui dit : Vous avez demandé à me voir, madame ?
Oui, monsieur, je m'excuse de vous importuner, mais j'étais de passage dans la région et j'ai voulu voir celui qui habitait maintenant ce château. Je suis Adélaïde Morel. Moi, c'est Guillaume de Fleury. Puisque vous avez demandé à me parler, asseyons-nous.
Et il l'amène dans un coin du salon où se trouvent deux fauteuils en cuir face à face. Asseyez-vous, madame. Elle s'assoit à côté d'une table basse. Il s'assoit aussi.
Il lui demande : Vous désirez boire quelque chose ? Du thé, café ?
Elle lui dit : Du thé, merci.
Guillaume appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Puis il lui dit :
Eh bien, je vous écoute, madame.
Elle lui dit :
C'est un peu délicat. Promettez-moi de ne pas en parler.
Je vous le promets.
On a frappé à la porte. Entrez, c'est le domestique. Apportez-nous le thé, s'il vous plaît.
Bien, monsieur.
Et le domestique ressort.
Elle lui dit :
Eh bien voilà, monsieur, j'ai été la maîtresse de monsieur Jeunetout. Maîtresse, si l'on veut, parce que nous ne nous voyons qu'à Paris, et il ne venait que chez moi. Moi, je n'allais jamais chez lui. Un homme étrange qui se servait des autres. Mais enfin, je n'ai pas eu à me plaindre de lui. Je l'ai vraiment aimé, et lui, je crois, un peu pendant un moment.
On a frappé à la porte. Entrez, c'est le domestique qui vient avec le thé.
Il va déposer le plateau sur la table basse.
Il demande à la femme : sucre, lait, citron ? Elle lui dit : un doigt de lait.
Guillaume lui dit : moi aussi.
Thank you. qu'il est servi se retire.
Tout en prenant leur thé avec des brioches, elle lui dit « J'étais assez heureuse avec lui. Il ne s'occupait pas de mes affaires et lui non plus des miennes. Je savais qu'il était président d'un groupe plutôt très important, mais je ne savais pas au juste. Un jour, dans les derniers temps de notre liaison, il avait laissé sa serviette chez moi. J'ai eu la curiosité de voir ce qu'il y avait. Et j'ai vu des choses aberrantes, des projets d'affaires inimaginables. J'avais l'impression d'être tombé dans un roman. Vous connaissez le groupe Jeune Tout ? Oui, bien sûr. Mais... Et je sais ce qu'il fait. Vous en faites peut-être partie de ce groupe. Non, pas du tout. Moi, j'écris... Je ne suis pas dans les affaires et j'écris des chansons. Elle lui dit. Ah bon, c'est mieux. Un jour, j'ai appris qu'il avait une maîtresse ici, dans ce château. J'ai appris en écoutant un demi-cycle lui parler. Une d'énorme aimée, Karine Lapierre ou un nom comme ça. Cette jeune femme était beaucoup plus jeune que lui. Il la cachait ici. Je lui ai dit que je savais qu'il avait une maîtresse. Et je l'aimais encore. Le temps passait. Et un jour, il était chez moi, on a téléphoné pour lui. J'ai laissé au salon. Et je suis allé dans ma chambre écouter avec l'autre appareil. Là, j'ai entendu la conversation. J'étais jalouse et je voulais savoir. Un homme qui semblait être un médecin, un des Américains, lui disait que Karine avait mis au monde un petit garçon et qui était en très bonne santé. Mais que la mère en avait été forcée de lui faire une césarienne et qu'elle dormait encore. Jeune Tout lui a dit de supprimer l'enfant et de ne rien lui dire parce qu'il était de naissance impure. Surtout de ne rien dire à la mère. Cette chose m'a profondément troublée. Je suis retourné vers lui, je n'ai rien dit, et décidé de savoir qui était cet homme que j'aimais, ou plutôt que j'avais aimé, et que je n'aimais plus du tout. Il m'a trouvé la mine défaite. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Alors il m'a laissé me reposer. Chaque fois qu'il venait me voir, je trouvais toujours un moyen pour regarder dans sa serviette. J'ai même eu le culot d'aller dans son bureau, le voir plusieurs fois. Une fois, il s'est absenté. J'ai ouvert les tiroirs, placards. Il s'est absenté suffisamment longtemps pour que je puisse voir les choses et tout lire. Et savez-vous ce que j'ai découvert ? Non. Eh bien, c'est que ce groupe avait pour but la domination du monde pour y prendre toutes les richesses, et ceci grâce aux technologies de pointe en matière ADN, biotech, informatique. Guillaume lui dit, tout le monde sait cela, et toute entreprise cherche à faire fortune. Elle lui dit, oui, mais eux, c'est en plus grande échelle, et en plus c'est une espèce de secte, dit les sept soleils, une chose étrange qui fait des expériences horribles sur des êtres humains qui capturent et séquestrent. Guillaume lui dit, c'est du cinéma tout ça. Elle lui dit, non, j'ai tout lu. Ils ont des projets terribles. Ils font s'emparer du monde avec des horreurs. Jeune Tout est mort. Karine a été tuée. Sûrement par les sept soleils. Ils ont un autre élu. Mais moi, je sais que l'autre élu, qui est le président du groupe, n'est pas le bon. On a mis un faux élu, le vrai, le fils de Jeune Tout, celui qui l'a fait tuer parce que la mère n'était pas assez bien. Ce fils-là, lui, n'a pas été tué. Il vit encore et c'est lui qui doit être l'élu. Il doit prendre la place de celui qui est à sa place. Guillaume lui dit, Mais comment savez-vous qu'il est en vie ? Deux jours après la naissance de Genetou, après sa naissance, je veux dire, Genetou était furieux au téléphone. Car ils étaient incapables, c'est de lui dire où était enterré. Parce qu'il voulait savoir, il voulait voir le corps. Il avait peur qu'il soit vivant. Mais personne n'a su où il était. C'est la preuve qu'il a survécu, qu'il n'a pas été tué. Guillaume lui demande, mais pourquoi tenait-il tant à ce qu'il soit mort ? Elle lui dit, par peur qu'il prenne la place de l'élu qu'ils avaient choisi. Guillaume lui demande, mais comment l'ont-ils choisi ? Comment l'a-t-il choisi ? Elle lui dit, peut-être l'ont-ils fait ? Peut-être a-t-il été conçu par des gens qu'il fallait ? Peut-être qu'à sa naissance, il s'est produit une chose étrange. Comment savoir avec ces fous ? Une secte ne pense pas comme nous. Si, mais si le fils Genetou sait qu'il est l'élu, il va vouloir la place et ce sera la guerre. Ce sont des gens très puissants et qui font des choses terribles. Leur but, c'est la domination du monde. Et depuis que je sais ça, je ne fais que des recherches sur eux. Ils sont de partout, dans toutes les nouvelles technologies. On ne peut plus les arrêter, sauf si le vrai élu veut les arrêter, car lui a le pouvoir.
Et quel pouvoir ?
Le pouvoir de décider. Guillaume lui demande, mais pourquoi me parlez-vous de tout ça à moi ? Elle lui dit, parce que je voulais voir le nouveau propriétaire du château, et je savais que vous le voyez souvent. Guillaume lui dit, vous voulez que je lui dise tout ? Elle lui dit, je suis trop vieille pour tout ça. Si vous pouvez reprendre le flambeau et lui dire de se méfier et d'arrêter ce plan horrible. Genetou et ses amis étaient fous, mais ils avaient le pouvoir. Elle se lève et lui dit, je m'en vais vous laisser maintenant, je suis fatiguée. Il se lève lui aussi. Je vais vous raccompagner et je dirai tout à l'élu. Bien, merci.
Et il la raccompagne. Il la raccompagne jusqu'à la sortie du château. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.
Elle s'en retourne. Le samedi, lorsqu'il voit Galien, il lui parle de tout ça. Elle semblait sincère. Galien lui dit, ce qui m'inquiète, c'est cette histoire d'enfant. Galien, une fois à Paris, dans son bureau.
Allô, pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir tout de suite? C'est très urgent à mon bureau. Merci.
Entrez, Monsieur le Président. Venez vous asseoir, monsieur Danfort.
Et il lui raconte tout. Danfort lui dit,
c'est une histoire invraisemblable. Elle est folle. Jamais une jeune toux a eu d'enfant. À moins qu'elle se soit faite avorter.
Galien lui dit, elle ne dit pas de l'enfant d'elle, mais de Karine.
Danfort lui dit, oh, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle était beaucoup trop vieille pour ça. Personne ne la croirait. Et je ne tout non plus, c'est impossible. Mais si elle nous sort un enfant, ne vous faites pas de soucis. Avec l'ADN, on saura tout de suite si c'est de jeune tout. Non, l'élu, c'est bien vous et personne d'autre.
Galien lui dit, mais pourquoi suis-je élu? Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas de sa famille. Je ne le connaissais même pas.
L'enfant lui dit, comment savoir? Peut-être qu'il a fait une enquête pour trouver un fils à adopter et qu'il est tombé sur vous. Vous aviez les qualités qu'il voulait.
Galien lui dit, mais je ne suis pas orphelin. J'ai mes parents.
L'enfant lui dit, ceci ne change rien à vos qualités. Il a eu un faible pour vous.
Il ne m'a jamais vu.
Il n'a peut-être pas eu le temps, mais d'après les témoignages,
Galien lui dit, ça me paraît bizarre d'hériter de tout ça, comme ça.
L'enfant lui dit, et si vous étiez né de lui, le hasard aussi vous aurait donné tout ça. On ne choisit pas la famille en naissant. Et lui était un scientifique et le savait.
Galien lui dit, vous avez peut-être raison, mais l'autre?
Il n'y a pas d'autre. Et puis, il était beaucoup trop vieux.
Galien se dit que rien n'est impossible avec la médecine. Et puis, Charlie Chaplin.
Les jours passent et l'on n'entend plus parler de ce fils. Comme personne ne veut lui dire quoi que ce soit, il ne peut rien faire. Et puis Galien se dit, si le fils revient et qu'il veut la place, je la lui donnerai. Sans faire d'histoire, et retournerai à mon ancienne vie. Et Guillaume, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, il retournera chez sa mère.
Thank you.
ce jeudi 24 septembre 1998, je viens de voir à la télévision que l'on vient de greffer une main avec un bras sur un homme. La main a été prise à un homme mort. Cette opération vient bien dans ma direction. Et je suis sûr qu'un jour, l'on fera l'opération de mettre un cerveau dans un autre corps. Ce sera plus long et plus compliqué, mais ils y arriveront. Mon histoire n'est plus de la science-fiction, mais du futur proche bien réel. Et il faut que je me dépêche de la finir et de la diffuser avant qu'elle ne soit démodée. Et Guillaume ne peut sortir. Comme il s'ennuie, il va d'une pièce à l'autre dans le château. Ce château compte beaucoup de pièces qui sont pour la plupart abandonnées ou simplement où personne n'y va, à part les domestiques pour le nettoyage. Il y a tellement de salons, de chambres. Ces pièces ont été totalement abandonnées. Elles sont devenues l'univers des araignées et de la poussière. Guillaume se dit que c'est bien dommage. Il va dire à Galien de les faire revivre. Là, il se trouve dans une pièce meublée en salon, simple, abandonnée et sale. Sur une table basse, il voit un livre à couverture rouge. Guillaume est attiré par ce livre, peut-être à cause de la couverture. Il le prend, le feuillette. D'après les pages, il semble assez ancien, papier jauni, couverture d'imprimerie un peu vieillot. Il semble en bon état. Garde la première page pour voir le titre. Élie, la vie est un rêve et rien d'autre. Sans nom d'éditeur ni d'auteur. Guillaume se dit que ce doit être un livre rare. Le titre lui plaît. Il regarde la couverture. Il n'y a rien d'autre écrit dessus. Puisque le titre lui plaît, et comme on n'y voit pas assez pour lire, il décide de le prendre pour aller le lire dans sa chambre.
fois dans sa chambre, il s'assoit à son petit bureau pour lire.
Comme il pleut, ça lui donne une bonne occupation. Il lit. Le livre dit que la vie est un rêve, un immense rêve, que ce rêve est fait pour nous cacher la réalité et que cette réalité du monde, de l'univers, de la vie, de ce que nous sommes vraiment, cette vérité serait tellement insupportable qu'on est obligé de nous la cacher en nous faisant rêver. Mais ceux qui détiennent la vérité et la clé pour nous réveiller, ce sont ceux des sept soleils. Guillaume se dit encore eux, ce doit être une drôle de secte. Et ancienne, vu le papier du livre, au moins 60 ans. Il faudra savoir qui c'est que ces sept soleils et ce qu'ils veulent exactement. Il reprend sa lecture. Ce sont eux qui tirent les ficelles de tout, qui mènent le monde, qui nous hypnotisent en nous offrant un passé présent et en nous cachant ce que nous sommes vraiment. Eux ne sont pas comme nous. Ils viennent peut-être d'ailleurs où sont un de nos rêves, eux aussi. Que sont les sept soleils? Qu'avaient-ils avant? Peut-être ne font-ils pas partie de la vie? Que ce ne sont que des illusions de vie que l'on nous donne. Si la vie n'est qu'une illusion de rêve, qui sommes-nous réellement? Comment est le monde? Est-ce que nous sommes de la poussière d'atomes, d'esprit, une espèce de grand cerveau géant qui rêve de vie, de ce monde? Sommes-nous le rêve de Dieu, une illusion, et le vrai, à de telles formes tellement horribles, dans un monde tellement horrible, qu'il faut nous le cacher? Pourquoi sommes-nous endormis? Comment? Peut-être pour nous prendre quelque chose. Quoi? Et qui nous endort? Devons nous réveiller, même si c'est pas pour voir l'univers, l'absolu. Peut-être l'est. Peut-être que la recherche de l'absolu est de nous réveiller pour qu'on voit le monde comme il est. La preuve que nous rêvons, c'est que la vie devient de plus en plus absurde, et plus nous avançons dans la science, moins nous savons. Plus nous avançons dans le petit, plus il y a un monde de plus en plus petit et compliqué. C'est comme un puits sans fin, et pour le grand c'est la même chose. La preuve que nous rêvons, c'est l'absurdité de nos rêves scientifiques. On coupe en quatre un ADN. C'est inconscient, les bactéries, les cerveaux connectés sur ordinateur, etc. Tout ça est complètement absolu et l'on accepte. Et pourquoi nous fait-on croire, rêver à des choses pareilles? Peut-être celui qui nous fait rêver n'a plus d'idée et qu'elle part dans tous les sens comme s'il était devenu fou lui-même, etc., etc. Pose des questions, des pourquoi, des pourquoi, des comment, pourquoi on rêve, comment, qu'est-ce que le monde réel? Il n'y a que des questions. Guillaume a fini le livre. Il se dit, ce livre ancien n'a pas l'air si ancien que ça. En le disant, il parle d'ADN, d'ordinateur. Non, il doit être récent. Il regarde à la fin et ne trouve pas de date. Non, rien. Peut-être est-ce un livre, un petit tirage. Mais pourquoi le papier est-il si vieux? Il semble-t-il si vieux? Il soupire et se dit, encore un mystère. Je suis envahi de mystères depuis que je connais Galien. Lui peut-être n'est qu'un mystère, un immense mystère. C'est peut-être lui qui fait rêver l'univers, le grand, l'élu, comme on l'appelle. Je fais l'amour avec Dieu, à moins que tout ce que je vois ne soit qu'un rêve. Un rêve dû à mes drogues dont j'aimerais me payer. Je suis peut-être enfermé dans une cellule à l'hôpital pour faire désintoxiquer. Ou dans une chambre minable, meublée, à crever de drogue. Qui sait? Et c'est sûrement pour cela que je vis des aventures étranges et sans logique. Qu'est-ce que je fais dans cet immense château tout seul? Et mes maladies bizarres, comme cette maladie de peau. Et pourquoi n'ai-je pas le droit de voir ma mère, de quitter ce château de la Belle au Bois Dormant? C'est comme si j'étais un drogué, un désintoxication, à qui l'on interdit de sortir et de voir quiconque, et qui a des illusions. Se pince et se dit, non, je vis. Ce que je vis, c'est bien réel. À moins que mes sens soient déconnectés. Il regarde le livre, le prend, le touche, le goûte, le sent, le met dans le tiroir de son bureau. Je parlerai de tout ça à Galien. En attendant, il vit normalement et ne cherche pas à penser à cette histoire. Est trop compliqué pour moi. Tout seul, je deviendrai fou. Si je cherche, par moi-même. Et cette histoire l'empêche de penser et d'écrire des histoires, d'écrire de ses poèmes. Cela l'énerve, car il a l'impression de perdre son temps. Il se dit, à cause de questions absurdes, je ne peux pas continuer ma création. Pourtant, l'artiste, lui aussi, peut apporter une réponse à ces questions. Il y a d'abord le rêveur, puis le poète, puis le philosophe, et ensuite le scientifique. Tout s'enchaîne. Sans rêve, il n'y a pas de pensée. Sans pensée, il n'y a pas de science. Il faut aimer le monde pour le voir et le découvrir. Et en le découvrant, chercher ce qui est, et en le cherchant, trouver ce qui n'est pas parfait. Ensuite, chercher à le perfectionner. Voir, c'est le rôle du rêveur éveillé. Apprendre à voir, c'est le rôle du poète. Se poser des questions du comment, du pourquoi, c'est le rôle du philosophe. Apprendre à comprendre, c'est le rôle de la science. Il n'y a pas de science sans avant le rêveur, poète, philosophe. Au fil des siècles, le rêveur éveillé voit de plus en plus. Ce qui fait que la science est allée de plus en plus de l'avant. Un jour, le rêveur a voulu voir ce qu'il ne voyait pas, à travers les apparences. Le poète en a fait autant. Rimbaud, des illuminations, et la science a suivi ses recherches en allant aussi dans ce qu'elle ne voyait pas. Pasteur, Curie, etc. L'infini en petit, bactéries, microbes, ADN, infiniment grand. Sans le poète, la science ne serait peut-être pas allée voir ce qui ne peut se voir et trouver des choses, pas en les voyant, mais sur un tableau noir avec des chiffres. Rimbaud, lui, c'est en cache-champ, c'est sa vue avec ses mains. Guillaume se dit, comme je suis poète, je fais partie du maillot de la connaissance. Je dis poète, mais... Et les écrivains peuvent l'être aussi. Mes vers sur la nature permettent de mieux la voir, aider à la connaître. Mais malheureusement, elles n'apprennent rien de nouveau. Ce que je montre a déjà été montré des milliers de fois, et sûrement mieux que moi. Mais moi, j'apporte mon style, la façon de le dire. Bien sûr, j'aimerais être un illuminé ou quelque chose comme ça. Apporter une chose qui pourrait révolutionner la façon de voir le monde, comme ce cher Rimbaud, comme je l'envie. En quelques temps, en quelques poèmes, il a bouleversé l'univers. Sans lui, pas de monde moderne. Mais moi, que puis-je apporter de plus? On est allé au bout, jusqu'au bout de la voyance des choses. Un poète ne peut aller plus loin.
Il ouvre le tiroir de sa commode et voit le livre rouge. Il se dit,
si je peux dire encore à ma façon, dire comme on n'a pas dit, ou dire d'une façon rêvée, je peux dire que nous rêvons, que le monde... Nous ne le voyons pas, qui est différent de ce que l'on croit, que c'est peut-être que des poussières d'atomes faites de choses horribles, que chacun rêve, etc. Oui, je peux montrer le monde comme une personne qui rêve et dire que nous rêvons tous et que nos rêves deviennent de plus en plus insensés, comme si la personne qui nous faisait rêver était devenue folle. Oui, je veux écrire, je peux écrire ce sujet de poème.
dans l'après-midi, il se met à son bureau. Et essaye d'écrire.
Ce n'est pas facile de décrire le monde comme si c'était un rêve. Une fleur et dire que ce n'est pas une fleur mais rien, le néant. Puis il décide, après, d'avoir décrit une fleur dont il se demande si sa perfection n'est pas illusion, parce que trop parfaite. Et il écrit un poème en disant que peut-être que les rêves sont la réalité et la réalité le rêve. Peut-être que le cerveau se trompe et fait prendre les rêves pour la réalité et la réalité pour les rêves. Voilà déjà deux poèmes dans cette nouvelle version. Les jours passent, il continue à écrire. Ce n'est pas facile. Quelquefois, son imagination va un peu à l'écart. Il dit qu'il voit des gens comme des insectes dans la rue. Qu'il est poursuivi comme un animal dans une chasse à courre. Des mutations s'en mêlent aussi. Il rêve qu'il rentre dans le sexe d'une femme, etc. Le livre, il ne peut plus le relire. Il essaye d'y penser le moins souvent possible.